autre regard ?
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
C'est le dicton, rien sur nous sans nous, en gros. Quoi. Voilà, c'est, on veut participer aussi.
Un autre regard sur le handicap psychique.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Un autre regard sur le handicap psychique sur l'autre radio. Alors Arnaud, aujourd'hui nous sommes avec les trois promos de l'IFSI de Laval, l'IFSI La Croix-Rouge de Laval.
À peu près 200 personnes.
Voilà. On est ravis. Alors, on n'a pas pu faire ça dans l'enceinte de l'IFSI parce qu'ils n'ont pas d'amphi assez grand. Alors, ça, c'est une demande qu'on pourrait faire à la région d'avoir un amphi qui pourrait accueillir tous les étudiants en une fois. Donc, on est dans l'enceinte du quartier Ferrier au bâtiment 13. Voilà, on est ravis. On a auprès de nous des formatrices et puis des étudiantes infirmières. Sandrine, qui est formatrice à l'IFSI Croix-Rouge, Nelly également, Célestine qui est en deuxième année, c'est ça, de ton cursus, et puis ça, enfin je pense tutoie, hein, voilà, et Sarah, toi aussi, donc toi t'es en troisième année, donc t'es presque une professionnelle aguerrie, voilà. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, Arnaud, c'est qu'on se retrouve sur la thématique de la santé mentale, évidemment, c'est le collectif Santé Mentale, on le rappelle, qui porte cette émission. Mais aussi sur la posture infirmière, sur votre parcours, sur vos vécus aussi. On le rappelle souvent, mais on a tous et toutes une santé mentale. Donc aussi, peut-être que c'est l'occasion de parler aussi de la pression que vous subissez dans le cadre de vos études. Enfin voilà, on va ouvrir largement le débat. Et puis, s'il y a des questions dans la salle, c'est impressionnant en fait d'avoir tout le monde autour de nous là. Mmh. On ne se rend pas compte. Mais voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à intervenir. Il y a un micro qui est là. Vous pouvez venir vous déplacer, puis, ou alors vous nous les faites parvenir et puis on vous répondra.
Et pour commencer, est-ce que Sandrine ou Nelly, vous voudriez bien nous présenter un petit peu ce qu'est l'IFSI, ce qu'est cette école ? Merci,
oui,
Sandrine.
Bonjour à tous et à toutes. Alors l'IFSI, centre de formation qui forme des futurs professionnels, donc des futurs infirmiers. Et donc, je ne sais pas si tu l'as dit, Myriam, mais aujourd'hui, on est, nous, dans le cadre de la semaine de la thématique de la santé mentale, oui, qu'on a voulu organiser au sein de notre institut de formation. On avait, l'année dernière, organisé une semaine thématique autour de la prise en charge des personnes âgées. Et du coup, cette année, on a voulu axer cette semaine de santé mentale cette semaine thématique sur la santé mentale.
Oui, parce
c'est dans
que
ce cadre-là.
Tous les ans, vous vous questionnez en tant qu'équipe pédagogique un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'aller un peu plus en profondeur sur, de façon transversale pour que toutes les promos soient touchées sur une thématique. Et vous vous êtes dit, bon, la santé mentale, alors pourquoi vous vous êtes questionné sur la santé mentale spécifiquement cette année ?
Tu veux répondre ?
Ouais.
Je pense que les événements que tout le monde connaît, hein, oui, la crise Covid, la presse parle beaucoup de santé mentale,
oui,
hein,
oui,
on n'a jamais autant parlé. Enfin, moi qui suis assez âgée, j'en ai jamais entendu autant parler. Ça m'impressionne de voir ces changements. Et il y a beaucoup de choses, des tabous qui se lèvent,
ouais,
là, et notamment par rapport au risque suicidaire ou au suicide, oui, des jeunes. Je suis impressionnée de voir comment ça évolue, enfin plutôt dans le bon sens, hein, puisque
ouais,
un tabou qui se lève, on peut espérer une amélioration et une prise en soin adéquate. Je vois ça par rapport au suicide. Hein, il y a une vingtaine d'années encore, le risque suicidaire, on n'en faisait pas en parler, même les professionnels du bout des doigts au CMP essayer d'en parler. Maintenant, il y a eu beaucoup de formations et il y a eu beaucoup d'études de fait qui proposent des grilles d'évaluation, mais
ouais,
ça ne suffit pas. Hein, chaque sujet étant unique, en psychiatrie, il faut faire très attention en santé mentale aussi de ne pas enfermer les gens dans des grilles. Hein, parce que la grille, c'est bien pour évaluer la douleur physique, mais la douleur psychique, ce n'est pas du tout la même chose. Le sujet étant unique et singulier, on a besoin vraiment d'avoir toujours ça en tête. Et ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir améliorer la santé des personnes, quoi.
Ouais. Sur une autre émission, on a rencontré l'équipe du 3114,
tout à fait.
Qui est le numéro d'appel d'urgence en cas de...
Alors, pas d'urgence, Arnaud, mais numéro d'appel.
Numéro d'appel, 3114, voilà. Si vous êtes concerné ou que quelqu'un de votre entourage...
Enfin, confidentiel, anonyme, gratuit, 24h/24,
prévention vous pouvez suicide.
Prévention suicide.
Et, donc, et je trouve très intéressant ce que vous venez de dire, parce que nous, ce qu'on voit, c'est que beaucoup, il y a beaucoup de groupes de parole, en fait. Mmh. C'est beaucoup les personnes concernées par les événements qui discutent entre eux et les paroles se délient un peu plus facilement, les groupes deviennent plus conséquents et donc il y a des solutions
qui émergent,
qui se passent de main en main, des conseils de grand-mère, entre guillemets. En tout cas, il y a vraiment des gens qui s'entraident et qui trouvent des solutions ensemble.
Conseils de grand-mère, ça me paraît... ça peut être utile pour la solidarité, le soutien, mais ça suffira sans doute pas. Hein.
Alors après ça dépend de quoi on parle. Si on parle de troubles psychiques, psychiatriques, vraiment décompensés, etc. Mais pour la santé mentale, nous, c'est vrai qu'on... On mise, l'idée du discours quand même du collectif Santé Mentale 53, c'est aussi qu'on a tous et toutes une santé mentale et que il faut tous qu'on prenne soin de nous d'une façon ou d'une autre.
D'une manière solidaire, vous voulez dire
solidaire et puis individuelle, collective.
Oui, collective.
Et puis individuelle aussi. On a des ressources en nous, on a des freins. Il faut se connaître. Il faut, enfin voilà.
C'est pas réservé à une minorité en fait. On s'est rendu compte que l'horizontalité de la relation, notamment au niveau du médical, c'est-à-dire que le patient, il prend plus de place dans son parcours. On parle du pouvoir d'agir, on parle de l'empowerment.
Mmh. Et, oui, du rétablissement.
Du rétablissement. Et on place vraiment l'usager, le patient, en expert. Et ça, ça change pas mal dans les hôpitaux. Ouais. Ça change pas mal dans les institutions. Et ça change pas mal dans notre vie au quotidien.
Vous avez parlé, vous avez évoqué le terme d'empowerment. C'est un terme qui est anglo-saxon. Évidemment, on n'arrive pas à le traduire en français. Hein. C'est le pouvoir d'agir sur sa propre existence. C'est un terme qu'on retrouve en santé publique, en santé communautaire, hein, qui est tout à fait d'actualité. Bon, bah, cependant, c'est une dans notre pays qui est très axé sur le curatif et pas assez sur le préventif. La dimension d'empowerment, que le sujet lui-même a une possibilité d'agir, elle n'est pas encore bien intégrée dans un système encore assez pyramidal. Hein. Et moi, j'ai travaillé pendant un an en prévention en santé mentale dans un collectif qui s'appelait Communication 53, mais qui n'existe plus depuis 20 ans. Et j'ai pu travailler avec des personnes qui venaient du terrain, des demandes qui venaient d'associations. Là, je me souviens d'un groupe, d'un syndicat agricole hein, qui était venu nous demander de travailler avec des agriculteurs volontaires, évidemment, sur le fragile passage à la retraite. Hein. Quand on quitte sa ferme, on ne quitte pas que son travail, on quitte sa maison. Enfin, les lieux sont communs. Et il y a un vrai travail de deuil à faire. Et on avait travaillé ça. Ça, c'est la santé communautaire
pure. Oui, tout à fait.
Ouais. Puisque ça vient, la demande vient...
Émane du terrain.
Du terrain. Bon, mais cependant, dans un hôpital, c'est pas forcément porté ça, parce que bon, aujourd'hui, ça change.
Ça change quand même.
Il y a des services
tout,
de santé publique à l'hôpital de Laval, par exemple. Bon, ça, c'est assez récent. Bon, il y a 20 ans, il y en avait pas. Hein.
Oui,
donc, comment dire, c'est en train d'évoluer, hein.
Ouais.
Mais doucement, voilà.
Oui. Est-ce que
faut
est-ce
pas
que
trop me laisser la parole.
Non, il y a pas de souci.
Merci, Nelly.
Sandrine,
merci,
peut-être que. Tu voulais rajouter quelque chose, Sandrine?
Non, bah, du coup, je me disais, j'aimerais bien entendre aussi les étudiants après nous.
Ouais.
On va dire, ouais.
Merci pour la
les
présentation.
Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'on est un peu enflammés sur le sujet. Quand
bah oui, bah oui,
ça
oui.
nous intéresse.
Ça nous intéresse. Ça.
Peut-être qu'on peut les entendre. Enfin, moi, on parlait aussi de la semaine de santé mentale. Peut-être
savoir
qu'on peut les...
leur retour,
comment
peut-être
ça se passe,
comment ça
de
se
la
passe.
Santé
vous avez rencontré qui, comment, est-ce que ça vous a apporté des choses? Voilà, bah, Célestine ou Sarah, comme peu importe. Vas-y, Sarah, si tu veux. Ouais.
Oui, allez, je commence. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Sarah, bonjour. Étudiante en troisième année, comme on l'a dit. Donc, cette semaine, on a commencé la semaine de santé mentale.
Ouais.
J'ai appris plein de choses. Franchement, j'en attendais pas mal parce que je connais la psychiatrie. Je me suis dit, sur le territoire, il y a pas mal de choses hyper innovantes et j'étais pas au courant de tout.
Okay.
Donc là, on a vraiment balayé assez large au niveau des associations, du terrain, de ce que l'hôpital propose également. J'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses, même sur les pratiques, l'aller vers.
Ok.
Voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas et j'étais ravie d'en savoir un peu plus.
Et pourtant, tu dis que tu avais fait quand même quelques stages en psychiatrie déjà?
Oui, quand même. Mais c'est hyper dur de cerner le réseau en entier.
Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as fait tes stages
Oui, alors j'ai fait mes deux stages en psychiatrie en troisième année.
Ouais.
Voilà.
Donc déjà.
Ouais, c'était bien. Ouais. Franchement, d'avoir toutes les clés en main au niveau relationnel, c'était appréciable. Ouais.
Ok. Et où ça, tu les as fait?
Je les ai fait au P4 à Mayenne, donc c'est le service d'admission. Mmh. Et j'ai fait mon deuxième stage à l'hôpital de jour Laval-Ouest.
D'accord. Bon, avec Muriel, Fabien, les collègues infirmiers,
exact.
Oui. Bien dynamiques.
Oh bah voilà, c'était super. Hein.
Plein d'humour et qui sont très dans la relation avec les personnes enfin les patients qu'ils accueillent quoi.
C'est, oui. Ouais. Oui, ils les ont.
Olivier.
Ils les
ont
Olivier Dutripon, le cadre.
Oui, il est parti à la retraite.
Oui.
Mais il fait partie du collectif Santé Mentale 53.
Voilà, donc c'est aussi pour dire que voilà tout ce collectif, tu vois, le terrain quand on parlait d'empowerment, de réseau et tout ça, c'est vrai que l'hôpital de Laval est très actif et très acteur heureusement sur ces questions-là et s'ouvre de plus en plus. Et est-ce que au sein de l'hôpital de l'HDJ, tu as senti cette envie d'aller vers la ville, vers la cité, vers le réseau ou...
Oui, carrément. Il ouais. Y a Chloé qui est pas mal investie sur le collectif aussi.
Ouais. Mmh. Oui, Chloé.
Elle m'en a beaucoup parlé du concert d'astérotypie. Ouais. Donc, pareil, j'ai pu voir les patients qu'aller faire du bénévolat au cours de la soirée.
Ouais.
Et franchement, ils étaient hyper contents. Enfin, c'est des patients sur lesquels ils m'ont expliqué un petit peu l'évolution parce qu'en six semaines, forcément, je peux pas apprécier entièrement la situation. Mais ouais, y a des progrès extraordinaires et puis arriver à faire du bénévolat, mener des actions comme ça, c'est incroyable.
C'est l'occasion de remercier encore l'équipe du 6x4 qui accueille les bénévoles. Donc c'était des usagers, des patients, des différents services qui sont venus passer quelques heures de bénévolat pour monter la scène, organiser la soirée, préparer les repas et puis accueillir les artistes. Ouais. C'était vraiment un bel événement.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Sarah, tu viens de parler du aller vers.
Oui.
Et en fait, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus.
Ok, bon, bah, de ce que j'ai compris. Que
j'ai senti de la passion, t'as dit, j'ai découvert le aller vers, mais je ne suis pas sûre que ça parle aux auditeurs. Donc, si tu veux bien nous en dire quelques mots.
Bien sûr. Alors, l'aller vers, donc, moi, ce que j'ai compris de ce concept, c'est le fait qu'une population ne va pas forcément aller questionner les professionnels sur leur santé mentale. Enfin, c'est pas une initiative qu'on prend facilement. Donc là, les verts, c'est plutôt les services associatifs, les services de soins qui vont aller vers la population pour pouvoir s'ouvrir, et faire découvrir...
la psy se révélateur.
Non.
Bon, t'as peut-être vu un peu de souffrance quand même.
Et faire découvrir toutes les offres qui sont proposées, en fait.
Ouais.
Parce que oui, en tant que grand public, c'est pas facile de savoir où s'orienter.
Bah, on voit bien que le paysage de la santé mentale est très vaste. Il y a plein de dispositifs, il y a plein de moyens d'aller vers les soins. Et à la fois, l'hôpital est très, 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 très en difficulté, évidemment, hein, sur la... le manque de professionnels. Hein,
le recrutement.
Le recrutement, le désert médical, le désert le manque de psychiatres et d'infirmiers et d'aides-soignants, enfin voilà, et de lits. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de dispositifs qui du coup, se colmatent, mais qui aussi... voilà, qui travaille avec envie malgré tout. Et puis, on sait que voilà, il y a eu des fermetures de lits et tout ça. Donc, il faut absolument développer ces démarches d'aller vers et d'accompagnement et de proposition en fonction du besoin de la personne, de type d'accompagnement, quoi.
Mm-hmm.
Hein bon, bah, c'est bien.
Merci
ça,
beaucoup.
Merci beaucoup. Célestine, toi, t'es en deuxième année, du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Comment ça va?
Moi, je suis un peu stressée, là.
Ah. Oui.
Bah, tout le monde, hein. Il y a des gens qui nous regardent.
Hein. Non, mais c'est parce qu'en soi, c'est vrai que moi, la psychiatrie, bah, j'aime bien ça. En cours, les apports théoriques qu'on nous apporte, effectivement, ça me pose question et je me questionne et j'ai de la curiosité par rapport à ça. Mais c'est vrai que par rapport au type de profil que j'ai en face de moi, bah, je me sens assez novice. Parce qu'à part un stage en femmes et en masse, j'ai
en
pas...
En foyer d'accueil médicalisé et masse...
d'accueil médicalisé. Okay. Bah du coup en soi j'ai pas vu autre enfin
oui c'est pas vraiment de la psychiatrie quoi c'est ça que tu veux dire
bah
quoi.
En soi voilà enfin je considère ça plus comme un lieu de vie ou en tout cas les pathologies ou enfin c'est stabilisé donc c'est vrai que je suis un peu stressée parce que en soi vous avez l'air d'avoir plein de choses à apporter et moi je suis juste là à écouter et à la limite à me poser des questions.
Non il y a vraiment une équipe avec des enfin moi je travaille personnellement avec des infirmières et on en a besoin parce que elles ont vraiment un regard qui est différent de l'éducateur spécialisé. On parle d'équipe pluridisciplinaire. Et par exemple, on va avoir les témoignages des usagers qui nous disent bah, « j'ai arrêté de prendre ce médicament-là, je veux le changer ». Et en fait, moi, je passe par ma collègue pour qu'elle me dise « est-ce que c'est grave ? C'est quoi ce médoc ? Qu'est-ce que je dois faire au niveau de l'usager, du patient ? Est-ce que je l'emmène aux urgences ?» Alors souvent, elle me dit bah « non, ça, il va être constipé pendant 3 jours ». Ou « non, faut pas ». Enfin bref, des fois, il y a des zones d'inquiétude que nous, on a parce qu'on n'a pas votre niveau de connaissance. Et moi, je trouve que les infirmières qui arrivent aussi en milieu ouvert sur l'extérieur, travaillant dans un SAMSA, c'est hyper intéressant d'avoir des équipes mixtes parce que vous avez un autre regard sur le monde de l'hôpital aussi. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on est extérieur toujours à l'hôpital et on se fait des idées sur le monde de l'hôpital. Donc je pense que c'est important que les portes soient ouvertes et qu'on puisse faire des allers-retours pour se rendre compte de comment ça se passe dedans, pour mieux travailler dehors avec les personnes quand elles sont sorties de l'hospitalisation, tout simplement.
Et ton souhait, Célestine, ce serait peut-être d'avoir d'autres stages un peu plus en intra, vraiment en psychiatrie, ou tu dis, bon, j'en ai vu en femme.
Moi, en vrai, j'ai envie de tout découvrir.
Ouais.
Mais en soi, c'est vrai que, en début de carrière, je préfère aller dans des services un peu plus soins critiques, parce que bon, je pense que c'est un peu le souhait.
Le soin technique,
technique. Mais c'est vrai que plus tard, j'aimerais bien... découvrir la psychiatrie, parce que je trouve que c'est un monde totalement différent. Enfin, même si j'ai pas fait beaucoup de stages ou si j'ai pas eu beaucoup d'expérience professionnelle là-dedans, je vois que, on prend plus de temps pour le patient, et je trouve que le soin relationnel est totalement différent, l'approche est totalement différente, et c'est ce que j'aime en fait dans ce domaine-là. Et du coup, au niveau des stages, je vais en faire un en troisième année normalement, et du coup ça va être en UMP.
D'accord, oui.
Et du coup, j'attends énormément de ce stage parce que...
Les urgences médico-psy, UMP pour les auditeurs.
Et du coup, j'attends énormément de ce stage parce que je sens que... Enfin, je pense que ça va être l'un de mes stages favoris.
D'accord. Rappel quand même, la psychiatrie n'est pas que en psychiatrie. Vous allez avoir de la psychiatrie en gériatrie, aux urgences, en réa, et fort heureusement en chir, en médecine, etc.
Et l'objectif de cette semaine aussi qu'on avait sur l'IFSI, c'est aussi de décloisonner un petit peu ça, de pas cantonner le côté psychologique, le côté à la psychiatrie. Je pense que peut-être vous n'avez pas fait de stage en psychiatrie, mais il y a d'autres services où vous avez peut-être...
Un peu partout, on en revoit. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, même quand on pose des questions, par exemple, aux professionnels de santé, on voit qu'ils sont moins spécialisés là-dedans, donc ils vont nous répondre de façon un peu plus brève ou un peu plus... survolé, on va dire.
J'arrive à dire, ça c'est de la psy.
Ouais, voilà.
Ah oui, ouais,
exactement.
Excusez-moi, mais justement, faut peut-être la semaine de santé mentale, elle est peut-être là pour dire, ça suffit, ça c'est de la psy. Moi je dis stop, ça c'est de la psy. Moi je suis très en colère par rapport à ça. La psy, elle est partout, la santé mentale. C'est les angoisses, par exemple, si je prends cette clinique-là. J'en parlais tout à l'heure avec une collègue qui a travaillé en cardiologie intensive. Un patient qui vient d'échapper à un infarctus, qui survit à... Il a une angoisse de mort. Si on n'est pas là dans la relation, dans le soin relationnel pour apaiser ça, il a des risques pour sa santé aussi. Donc la santé mentale, elle est partout. Et moi, j'ai envie de le hurler parce que d'un côté, il y a la psychopathologie, évidemment. On est dans la psychiatrie clinique classique. Mais il faut absolument sortir de ça. Parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on entend ça. Je trouve que ça n'avance pas beaucoup. Votre démarche, là, elle est sans doute faite pour ça aussi.
Ah bah oui, complètement. Mais la santé mentale, qu'on a tous une santé mentale.
Ça reste quand même très verrouillé. Moi, je ne vois pas beaucoup de progrès à ce niveau-là.
Et c'est peut-être aussi, je te rejoins là-dessus, Nani, c'est peut-être aussi comme ça qu'on va aussi, et comme ça qu'on en parle de plus en plus de la santé mentale, c'est aussi que... C'est pas aux mains d'une seule spécialité qu'on appellerait la psychiatrie. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette semaine de santé mentale. C'est que même si il y a une grande partie de nos étudiants qui se destinent pas à travailler en psychiatrie, mais la santé mentale les concerne tous pour eux et aussi pour leurs patients, quel que soit le service. Tu prenais l'exemple de la cardiologie. Partout, dans tous les services, dans tous les lieux où ces étudiants travailleront, eh ben, nous, on pense que la santé mentale, ce qu'ils apprendront sur la santé mentale, vont leur servir à eux puis à leurs futurs patients.
Puis la maladie en soi est quelque chose d'assez anxiogène, hein, quand on vous annonce même un diabète, un cancer, un deuil. Enfin voilà, c'est quand même ça bouscule notre psyché, évidemment. Donc évidemment qu'il faut quand même, quand on est soignant, avoir cette attention-là, que de dire, ou même une entrée en EHPAD. Enfin voilà, il y a la famille, voilà, mais la petite mamie qui arrive, qui a vécu 40 ans chez elle, et jusqu'au bout, voilà, on a essayé de maintenir à domicile et que là, c'est plus possible et qu'enfin, qu'on trouve une place dans une structure, mais c'est hyper violent. Donc,
il faut se rendre compte qu'il y a des moments des passages qui sont extrêmement violents pour la psychologie du sujet. Mmh. Et ça, c'est absolument à prendre en compte et c'est souvent banalisé. Tant que la personne ne saigne pas, hein, une hémorragie, on est très très actif devant une hémorragie, mais une souffrance psychique intense qui peut faire mourir aussi, d'une certaine manière, peut-être à petit feu ou à long terme, eh bien, on est moins vigilant. Et la qualité relationnelle va permettre d'apaiser ça. Et les soignants, bah, c'est leur job, normalement.
Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de nos étudiantes là-dessus, pour savoir aussi si on est dans le vrai en tant que formatrice par rapport à ça.
Bah, je pense que vous êtes totalement dans le vrai. Mais en soi, je trouve que là, enfin, on parle beaucoup des patients. Ouais. En soi, je trouve que les soignants, c'est un peu pareil. Parce qu'aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui arrêtent ou il y a beaucoup de turnover dans les services. Ouais. Et en soi, c'est parce que justement, nous, soignants, on ne prend pas assez conscience de notre santé mentale. Ouais. Et je pense que c'est totalement lié avec cette émission. C'est que, OK, il faut penser aux patients. Ouais. Mais avant tout, il faut penser à nous-mêmes. Parce que je pars du principe que si nous, on n'est pas bien dans notre tête, on ne pourra pas faire du bien à l'autre, du coup, l'autre pourra pas être bien dans sa tête non plus.
Et ça, Célestine, tu l'as ressenti vraiment tout au long de tes stages. Enfin, t'as pas trouvé un stage où c'était hyper apaisé, petit cuicui. Enfin voilà, tout va bien. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a une pression des équipes. Enfin voilà, qu'il y a une pression quoi.
Bah en soi, oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a un stage spécifiquement qui me l'a fait réaliser, même si avant j'en avais conscience de façon pas inconsciente du coup.
Ouais.
Mais c'est vrai que par exemple mon dernier stage, c'est pas très bien passé.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que comme moi j'étais mal, et je faisais pas du bien aux patients que je prenais en charge.
Toi-même, t'étais pas bien. T'étais complètement, t'étais tout ému, ça m'émeut ouais. aussi. Mais non, mais franchement, on l'a tous vécu en tant qu'étudiant infirmier. Enfin, on a tous vécu ces stages tout pourris, où vraiment. Mais non, mais c'est vrai, ça nous affecte vachement parce que je vois plein de gens qui acquiescent derrière. Mais non, ça affecte vachement parce que on est vraiment lancé dans la. Surtout quand on arrive en deuxième année, tout ça, on est lancé dans les services comme ça. On est seul, hein. On est seul. Mmh. Et quand tu vois que tu commences que le stage il vrille quoi, tu vrilles aussi
mentale,
du coup
quoi.
Là tu perds
travail,
complètement pied mentale. Et faut surtout pas perdre pied, faut se dire que c'est normal, c'est deux passages et que le stage prochain espérons-le se passera mieux.
Comment on trouve des solutions du coup sur son lieu de stage quand on se trouve en difficulté, quand on est un peu dépassé par ce qui arrive, voire tomber sur une équipe qui est elle-même en difficulté? Quel choix vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants? Quelles solutions ils ont en fait pour s'en sortir et pour aller mieux sur leur lieu de stage?
Faut en parler. Hein. Moi, je sais que les jours où ça va pas, des fois sur le lieu de stage, je laisse rien paraître.
Ouais.
Mais pour autant, en rentrant à la maison, j'appelle mon copain, je lui dis tout, je pleure. Si ça me fait du bien, c'est normal. Mais après, oui, les équipes, je pense qu'elles sont aussi capable de comprendre pour certaines. Donc, si on sent qu'il y a une personne ressource dans l'équipe, pas hésiter à lui en faire part pour que les choses bougent un petit peu.
Il y a un système de référent quand même de stage tout le temps.
Oui,
ça existe.
Oui.
Ouais. À l'école aussi, je pense que vous avez quelques ressources.
Et ne pas hésiter à faire les retours, quoi, en effet. Après, c'est sûr qu'on hésite un peu. C'est à la fois, on est noté par nos référents. Donc,
il n'y a pas des groupes d'étudiants, des forums ou des choses comme ça où vous pouvez vraiment échanger sur cette notion-là entre vous?
C'est vrai qu'il y a la FNESI, mais là, c'est plus national.
Ouais.
Donc, en fait, là, c'est la Fédération nationale des étudiants infirmiers.
Je ne l'avais pas, celui-là.
comme ça, vous avez appris quelque
Merci.
Chose.
Merci, mais on sort toujours grandi.
Mais en soi, à part ça, c'est vrai qu'à part nos référents à l'école, donc nos formateurs, finalement, et les délégués, pourquoi pas, il n'y a pas forcément de forum associatif à l'école.
Vous n'avez pas d'association étudiante interne à l'IFSI?
À part le BDE, mais le BDE, il y a moins de soutien relationnel là-dedans. En fait.
C'est...
Ouais, exactement, c'est généralement pour les jeudis.
Ok, bon.
Vous avez évoqué, il y a un terme que j'aimerais bien qu'on revienne dessus, vous avez parlé de soins relationnels. Ça fait plusieurs fois que vous en parlez là, dans l'interview, et je voulais savoir si c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la pratique, si ça fait partie de vos indicateurs, entre guillemets, de travail, et si c'est reconnu dans la pratique des hôpitaux comme étant nécessaire dans le soin. Anneli, ça l'intéresse.
Bah oui, je m'en occupe, alors ça m'intéresse.
Allons-y, Nelly.
Les soins relationnels, ils sont inscrits dans le référentiel de formation. Donc, il y a, sur 3 années, il y a une unité d'enseignement qui est consacrée à ça. Donc, évidemment qu'au niveau de la formation, c'est assez investi. Après, le problème, et c'est permanent, c'est que c'est un soin invisible. Hein, une relation, c'est pas matériel, forcément. Donc, c'est pas assez tracé dans les pratiques soignantes, souvent dans les services de soins. Et c'est comme un peu si ça n'existait pas, quoi. Hein. Donc ça, depuis longtemps, on se bat pour que ça soit tracé, pour que ça soit visible et que le temps soit compté, quoi, pour un temps de travail conséquent, quoi. Alors en psychiatrie, évidemment, le soin relationnel, il est central, hein, puisqu'on n'a pas, on a les médiations par rapport à des activités artistiques, par exemple, ou physiques ou sportives, mais il va être beaucoup plus en compté, parce qu'il y a moins d'investigations, je dirais, du côté radio, examen complémentaire. Enfin, on n'est pas du tout dans la même dynamique, hein, de toute façon. Mais ces soins relationnels, c'est un combat permanent pour les faire entendre, parce qu'il faut que la parole... Là, on est dans un moment où la parole se libère. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des gens en face pour savoir écouter de manière active et pertinente. Si on parle et qu'on n'est pas entendu, à quoi ça sert ?
Et vous, Sarah ?
On sait que dans les services somatiques, même, c'est primordial. Hein. Enfin, franchement, le soin relationnel, on le voit chez une personne chez qui on développe une alliance thérapeutique, tout comme un psy. Hein.
Bah oui.
La guérison, elle sera tout autre et tout beaucoup plus rapide. Ouais, c'est hyper important dans tous les services.
Et vous avez le droit un petit peu d'échanger. C'est un peu personnel ce que je vais vous poser comme question. En fait, j'ai été hospitalisé pour un staphylocoque il y a quelques années. Et les infirmières, quand j'étais en contact avec les infirmières, j'avais l'impression qu'elles n'avaient pas trop le droit de me parler. Elles disaient, ah non, ça, il faut qu'on voit avec le médecin.
De te dire les choses.
Les choses.
Sur,
je voulais savoir où j'en étais, si ça allait mieux, quand est-ce que je pouvais sortir, des choses comme ça. Et j'ai senti... vous aviez une position du cul entre deux chaises. Le côté, j'ai envie d'être proche du patient, mais je peux pas trop lui en dire. J'ai pas trop le droit de me livrer. Est-ce qu'on a le droit d'aller aussi dans l'émotionnel, dans le relationnel ? Est-ce qu'on a le droit d'être bien avec certains patients ? Et j'avais trouvé que c'était un petit peu compliqué pour vos collègues, en fait, de pas pouvoir dire, ah non, on doit attendre le retour du médecin pour pouvoir vous parler. Et j'ai trouvé hyper, pas clivant, mais en fait, il y avait vraiment des zones où on n'avait pas le patient, il attendait, quoi.
Bah oui, ça.
J'étais vraiment à pas savoir manger.
Je suis patiente.
Donc j'ai patienté, mais voilà. Est-ce que vous sentez que vous avez le droit de vous exprimer auprès des patients ? Est-ce que vous sentez que vous avez le droit aussi d'aller pas dans de l'intime, mais dans de la sécurisation, dans du temps de racontez-moi votre parcours, on va prendre 5 minutes. Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que ça compte ?
Souvent, oui, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là, parce que nous, on sait. Enfin, on a le dossier en tête, hein. Mais des fois, quand le médecin n'a pas fait l'annonce, c'est pas forcément à nous d'engager les choses. On va être plus là pour reprendre les choses a posteriori avec le patient, lui expliquer si tout est compris, voir si au niveau des traitements, c'est bien intégré aussi.
Et ouais, puis peut-être, si je peux me permettre, remonter au médecin que le patient il attend son diagnostic.
Oui, aussi.
Ça,
on
c'est
peut...
aussi le rôle de l'infirmière d'aller dire, écoute, très bien, là, il a envie de savoir.
En santé mentale, on parle beaucoup d'errance de diagnostic. On a quand même des personnes qui témoignent de plus de 20 ans de recherche. Donc, c'est des jeunes, des moins jeunes qui se retrouvent à chercher eux-mêmes sur Internet. Et sur Internet, on fait plein de similitudes, quoi. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Mais en fait, je suis schizophrène, ça y est, j'ai trouvé, quoi. » Et une semaine après, « Non, mais en fait, je suis bipolaire. Non, mais c'est bon, j'ai... » Et c'est ça, très souvent, et les médecins se positionnent pas forcément, parce que c'est vrai que mettre les gens dans les cases, aujourd'hui, on va peut-être même sortir des diagnostics à un moment donné, ouais, pour traiter juste les maladies, les symptômes et ce qu'on voit. Mais il y a des patients, nous, qu'on accompagne, qui ont aussi besoin de savoir ce qu'ils ont depuis toujours.
Arnaud, on va peut-être faire une petite pause musicale. si ça te va. Si, hein.
Moi, je suis content. Je ne sais pas si on va écouter Ben Mazoué. On va écouter Ben Mazoué, c'est un artiste que j'aime beaucoup et il nous chante Les gens qui doutent. Et j'ai trouvé que c'était d'actualité.
Super.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui n'osent, parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Oh, j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs autant au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de bien plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci. Merci pour la tendresse. Et tant pis. Tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Bon Arnaud, voilà. Oh là, excusez-moi, je crie dans le micro. On a parlé pendant la pause rapidement. Sarah disait hors micro que sur l'errance du diagnostic, tu avais des choses à nous dire.
Oui, en stage, oui. Bah, c'est vrai que ça se voit souvent des situations où le patient se questionne sur le diagnostic le concernant. En psychiatrie, il faut savoir que ce n'est pas immédiat, une pose de diagnostic. Enfin, ça prend du temps, sinon c'est précipiter les choses et au risque de changer plusieurs fois. Et ce n'est peut-être pas la bonne façon pour le patient non plus. Moi, je me souviens, c'était un patient du coup, à l'hôpital de jour qui me disait ah, on m'a diagnostiqué schizophrène. Après bipolaire, après schizodystémique. Ouais. Elle me dit, mais je ne sais plus qui je suis, en fait. Ouais. Et je lui dis, bah, ce n'est pas ça qui vous définit en tant que tel. Enfin, c'est une partie, mais ce n'est pas votre entièreté. Et oui, là, je voyais que l'errance diagnostique, dans son cas, c'est vrai que ça l'avait vraiment travaillé. Hein. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, il se posait encore des questions sur qui il était. Donc, c'est vraiment fort. Hein, quand
ça fait partie de l'identité, vraiment. Il y a un moment donné, ce qu'ils ressentent, ils ont besoin de savoir.
Et c'est pour ça que d'entendre des discours autour de la paire aidance, notamment, et voilà, on voit bien que dans leur parcours, ils disent bien qu'ils réalisent que finalement, ils ne sont pas qu'une maladie non plus. Enfin, parce que pendant aussi tout leur parcours de rétablissement, d'hospice, aller-retour, la famille qui renvoie...
Les questionnements
sur le traitement, sur ce qui fait qu'on est pragmatique, fatigué, avec des idées noires, etc. C'est de ma faute, je m'en veux. Enfin, et en fait, bah, je suis schizophrène. Et c'est ça, quand on parle d'auto-stigmatisation, c'est que soi-même, finalement, on se prive et on se...
Dévalorise.
Oui.
Un petit peu.
Et Célestine aussi, vous avez vécu des choses en stage. Quand vous avez entendu parler de santé mentale cette semaine, ça a fait résonance un peu. Vous vous êtes dit, ah, ça me parle.
Bah, pas sur l'errance diagnostique,
non, mais il y a peut-être autre chose.
Mais en soi, là, non, tout de suite. Enfin, je sais que ça m'a fait beaucoup écho quand on a eu nos cours hier, etc. Mais là, tout de suite, non, j'ai rien à dire.
Merci. Il y a mon collègue qui est passé vous voir ce matin, donc qui est père aidant, et qui m'expliquait que les patients ont besoin d'être entendus. Donc je suis content d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire, en tant qu'infirmier, infirmière en devenir, que le patient n'est pas qu'un dossier, évidemment, et qu'en fin de compte, alors je sais que vous n'avez pas le temps, mais discuter avec les gens, savoir ce qu'ils en disent, eux, de leurs difficultés, c'est souvent là que vous allez trouver les solutions à certaines difficultés. Et puis, j'ai trouvé le sens aussi auprès des personnes en situation de handicap que j'accompagne, qui définissent eux-mêmes leur handicap. Il y a une dame, elle me dit, je suis un peu déluré. Et en fin de compte, une fois qu'on a validé un terme, même si ce n'est pas le terme médical, on arrive à en parler. Et ça, c'est dans ma pratique, c'est quelque chose que j'utilise pas mal.
Mais en soi, par exemple, par rapport au fait que des personnes attendent leur diagnostic, puisque vous parlez de ça tout à l'heure, c'est hyper difficile au niveau du rôle infirmier, puisque ça n'a rien à voir avec la psy. Mais moi, j'ai fait un stage en chirurgie. Et en fait, je n'avais pas le droit de dire au patient ce qu'il avait avant que le médecin aille le voir.
Oui,
donc, étant donné que le médecin, généralement, il fait toutes ses interventions et il vient en fin de journée, ou je veux dire, il est hyper long. Moi, je vais revoir plusieurs fois mon patient pour reprendre les constantes, etc., pour voir comment ça va. À chaque fois, il me repose les mêmes questions. Du coup, est-ce que ça va? Est-ce que mon opération s'est bien passée? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas de complications? Mais en fait, même si moi, je sais, je suis obligée d'éviter le sujet parce que, je ne sais pas si on peut dire par loi ou par législation, mais moi, je n'ai pas le droit de le dire. Et ça peut paraître frustrant parfois, du coup.
Parce dans ton rôle propre, c'est un peu limité, quoi. Après, voilà, c'est compliqué. Hein,
oui, c'est sûr qu'il y a des lois, du rôle de chacun qui rentre en ligne de compte. Donc c'est vrai que on peut retrouver dans des situations un peu délicates en tant qu'infirmier ou infirmière ou élève. Je pense que comme vous le dites.
Et encore, là, je me dis que, tu vois, ça, c'est dans le cadre d'un stage. Tu sais que le médecin va finir ses urgences, il va remonter dans les services et puis il va annoncer ce qu'il a annoncé aux patients. Mais les filles qui sont dehors, infirmières libérales, qui voient les complications, qui voient, qui essayent d'interpeller le médecin généraliste, il n'y a pas de réponse, etc. C'est compliqué aussi. C'est sûr que on touche à de l'ordre de l'intime, c'est hyper violent la médecine, c'est vrai, hein, et c'est en ça que la santé mentale et le rôle relationnel, dire et de pas trop dire, annoncer les choses petit à petit, c'est une posture soignante en fait, hein, ça s'apprend sur le tas.
Ouais. Après, en plus, on s'inscrit dans des évolutions sociétales. Vous parlez de patients qui prennent de plus en plus de place dans la prise en charge. Donc, c'est des habitudes. Enfin, l'hôpital, comme tu l'as dit, c'est très pyramidal. Faut aussi que ça évolue. Et du coup, on s'inscrit dans tout ça. Donc,
où les personnes ont envie de... Enfin, voilà, ils veulent reprendre le pouvoir sur leur santé aussi. Hein,
ouais.
Donc,
et puis, il faut qu'ils soient prêts en même temps, je dirais, parce que pour pouvoir leur annoncer un diagnostic... faut qu'il soit prêt à l'entendre. Faut qu'il soit prêt à l'entendre, à l'accepter. Donc il y a aussi toute la temporalité du patient à suivre aussi.
Il y a l'entendre et puis il y a vivre avec ensuite, parce que une fois que c'est déposé et que le médecin ou l'infirmière part de la chambre, on reste avec nos interrogations et c'est là qu'on a besoin d'avoir du temps, du soin relationnel. Vous m'avez parlé de telle maladie, c'est quoi? Excusez-moi, mais quand j'entends encore IFS, you know, je sais pas quoi là, ça me parle pas du tout. Dans les trucs dans les émissions urgences où on voit les médecins. Et nous, on parle avec des logos qu'on connaît, que personne ne connaît, et les patients ne comprennent rien. Femme est infirmière, du coup, on regarde les émissions ensemble. En ce moment, on regarde Hippocrate.
Ah oui.
Qui sympa. Et elle m'explique des trucs, alors que je suis un téléspectateur, je devrais comprendre.
Non, tu comprends rien.
Je comprends rien.
Ah ben, le jargon, hein, ça permet de garder une certaine opacité, et ça va avec le pouvoir, faut pas se tromper.
Mais
hein.
Je suis complètement d'accord avec ça.
Et moi, j'ai le souvenir qu'en tant qu'étudiante...
C'est plus simple.
Ouais, quand en tant qu'étudiante infirmière, justement, les équipes, elles m'envoyaient un petit peu, va le rassurer, enfin, t'as un peu plus de temps. Est-ce que vous avez cette sensation-là ou... Enfin, moi, c'est vrai que j'avais plaisir à ça, d'avoir un peu de temps en tant qu'étudiante, un peu plus quand même.
Des fois en stage, carrément, on a plus le temps de prendre le temps.
Bah oui.
dans des stages où on va aider les personnes à faire leurs soins quotidiens, par exemple, on est là, on peut vraiment passer du temps à parler avec la personne, à parler des musiques qu'elle écoute, par exemple, n'importe quoi, aborder un petit peu la globalité. Donc, ouais, c'est appréciable. Hein.
Moi, profitez, profitez.
Et puis, ça serait bien que ça reste une référence. En fait.
Oui,
si on parle de l'efficacité du soin relationnel, ça veut dire qu'on a besoin d'échanger pour aller mieux. Mmh. Et il n'y a pas qu'un traitement qui nous fait aller mieux, il y a aussi du vivre ensemble.
Mmh. Et puis aussi, avoir une forme de curiosité des histoires de vie des autres. Hein, et pour se former à tout ça, ben, le cinéma, les arts, la culture, la littérature, c'est important pour rencontrer l'autre. Et je crois qu'il y a des facs de médecine à Bordeaux, notamment, où les étudiants en médecine utilisent la littérature pour mieux appréhender les histoires de vie des patients, puisque par le biais du roman, eh ben, on appréhende l'autre aussi. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être développé dans toute formation en soins. Quoi.
Bon.
On voit aussi, par exemple, cette radio, c'est vrai que d'autres médias, de la culture, l'accès à la culture, la musique, tout ça, on voit aussi que c'est aussi une ressource pour notre santé mentale aussi. Hein. Ouais. Ça permet de...
Et puis les gens sont quand même à l'hôpital cloués au lit, parfois ils s'ennuient, quoi. Ils s'ennuient, l'ennui est terrible. Et, alors en psychiatrie, il y a un petit peu plus quand même de lieux de médiation, les infirmières et voilà, elle propose d'aller faire un tour au sport, faire un tour à l'extérieur, etc., quand c'est possible, quoi. Mais c'est vrai que je vois à l'hôpital général, à part la télé qui est hyper chère en plus, je veux dire, les gens s'ennuient. Non, mais vraiment, les gens s'ennuient et ce serait...
Il ne peut pas y avoir des réseaux internes entre patients, genre un truc qui se développe où les gens parlent entre eux, ils peuvent parler. Moi, je suis à la 117, il se passe ça. Je ne me sens pas très bien, je ne dors pas, il y a quelqu'un d'autre qui ne dort pas.
Pourquoi pas, il faudrait inventer quelque chose.
C'est des réseaux qui seraient plus centré, quoi. Comme, comment on appelle ça, la consommation locale, là, de proximité.
Ouais.
Bah, ça pourrait être bien de faire ça.
Bah oui, pourquoi pas. Ouais. Sarah.
Mais même dans les services, en psychiatrie, ils ont un lieu où ils peuvent se regrouper.
Oui.
Dans les autres services,
oui.
c'est pas le cas.
Il y a le point relais en bas, là, on achète des trucs, c'est pas mal. Mais c'est là où se retrouvent les patients, l'hôpital général.
Oui, pour fumer dans le patio, là.
Si tu fumes pas, t'as pas d'amis. Hein.
Non, c'est ça. Ouais.
On arrive au terme de l'émission.
Ouais.
Est-ce qu'il y a...
Est-ce que dans le public, vous avez
dans le public,
questions,
il y a peut-être des choses.
Enfin, des choses, des
remarques.
Des remarques.
Des envies de venir travailler avec nous.
Voilà, oui, venez travailler en Mayenne et en santé mentale. Est-ce que...
Ah oui, ils ne sont pas tous mayennais, là, du coup.
Ben non, j'imagine que non. Enfin, oui, voilà,
Non.
Il y a des étudiants de tous horizons.
D'accord.
Ouais. Enfin,
bienvenue en Mayenne, du coup.
Mais vous nous accrochez bien. Hein. Moi, je ne suis pas mayonnaise, mais je me sens mayonnaise.
Ah, bah voilà. Bah, Arnaud n'est pas mayonnais. Voilà,
on est tellement bien entre la mer et la montagne en Mayenne.
Voilà. Mais entre la mer et la montagne.
Mais si tu regardes bien,
mais
très loin,
bien, c'est vrai
un peu ça, quand même.
Ouais. Bon. Donc, pas de questions. Est-ce que l'équipe pédagogique dans le four, là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous voulez nous chanter une chanson? Non, rien de spécial. En tout cas, merci à l'IFSI quand même Croix-Rouge de nous avoir sollicité pour participer à votre semaine thématique sur la santé mentale. C'était super chouette. On a passé de chouettes moments avec vous à préparer un petit peu ensemble et puis aussi auprès des étudiants. Et puis voilà. Là,
on va voir un médecin là, je crois.
Hein?
Un médecin et une infirmière.
Oui, vous allez voir
ça,
des collègues de Réseau Contier
qui vont nous présenter le cube virtuel.
Ouais. Ah, très intéressant aussi dans les personnes, les névroses, certaines personnes qui ont des phobies sociales. C'est hyper intéressant. On est en train d'y réfléchir pour certains patients.
À Château-Gontier, ça se fait déjà. Ils sont très innovants à Château-Gontier.
Bah, forcément. Ah,
le siège social de l'autre radio, d'ailleurs.
Célestine, vous voulez dire quelque chose pour conclure?
Je voulais vous remercier. C'était une chouette expérience.
Super, merci.
Merci beaucoup.
Et voilà.
Pour nous aussi, c'est toujours enrichissant.
Ouais. Sarah, est-ce que...
Pareil, hein. Je rejoins Célestine, merci beaucoup.
Et puis, restez, posez votre CV dans le coin. Restez, si vous avez envie de travailler en santé mentale, on est
vous
là.
Vous pourrez renégocier vos salaires plus facilement maintenant.
Moi, je remercie aussi votre équipe pour avoir participé à notre semaine de santé mentale. Et puis, je remercie surtout aussi tous les étudiants et les étudiantes pour leur participation à cette semaine de santé mentale. J'espère que ça leur a plu.
Nous aussi. Nathalie.
Écoutez, moi aussi, je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à cette semaine de santé mentale et pour tout votre travail toute l'année autour de cette dynamique en Mayenne.
Ouais, écoutez, super. Merci Arnaud.
N'oubliez pas, on a tous une santé mentale.
Ouais.
On se quitte avec Stromae.
Allez,
santé.
Santé.
n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Un autre regard.
Une émission proposée par le collectif Santé Mentale 53.
C'est complètement possible de franchir ce qui était des barrières avant.
Avec un autre regard.